Chers frères et sœurs et chers amis, le titre de notre 10e étude, c'est « Tout commence avec Dieu ». Voyez-vous, tout ne tourne pas autour de vous ou de nous. Votre vie a un sens qui dépasse de loin votre épanouissement personnel, votre paix intérieure ou même votre bonheur. Elle a un sens qui dépasse aussi votre famille, votre travail ou même vos rêves et vos projets les plus fous. Si vous voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur cette terre, vous devez commencer avec Dieu. Vous êtes né par lui et pour lui. Les hommes ne trouvent pas de réponse depuis des milliers d'années à la question du sens de la vie. Pourquoi? Parce que ils partent généralement d'un mauvais point de départ dans leur réflexion eux-mêmes. Ils se demandent « Qu'est-ce que je veux devenir? Que vais-je faire de ma vie? Quels sont mes objectifs, mes ambitions, mes projets d'avenir ?» Chers amis, ce n'est pas en nous centrant sur nous-mêmes que nous découvrirons le vrai sens de notre vie. La Bible affirme « Il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. » Donc, contrairement à ce que prétendent toutes sortes de livres, de films et de conférences, vous ne découvrirez pas le sens de votre vie en regardant l'intérieur de vous-même. Peut-être avez-vous déjà essayé cette méthode, mais comme vous ne vous êtes pas créé vous-même, vous n'avez aucun moyen de préciser la raison par laquelle vous avez été créé. Si je vous montre une nouvelle invention, vous ne pouvez pas savoir à quoi elle va servir, et l'invention ne peut pas vous le dire non plus. Seul son créateur ou une personne qui possède le mode d'emploi pourra vous l'expliquer. Un jour, je me suis perdu en montagne. Lorsque je me suis arrêté pour demander mon chemin jusqu'au camping, eh bien, on m'a dit « Ah, attention, vous n'y arriverez pas depuis ici. Vous devez passer par l'autre côté de la montagne. De même, vous ne pourrez jamais trouver un sens à votre vie en vous prenant vous-même comme point de départ. Commencez donc par Dieu, votre Créateur. Vous n'existez que parce qu'il le veut bien. Vous avez été fait par lui et pour lui. Et ceci en tant que vous ne comprendrez pas cela et autant de temps que vous n'allez pas le comprendre, eh bien votre vie n'aura aucun sens. Essayez de le comprendre, et c'est uniquement en Dieu que nous découvrons notre origine, notre identité, notre raison de vivre, oui, notre valeur et notre destinée. Et tout autre chemin, croyez-moi, mène à une impasse. Vous avez été fait pour Dieu et non l'inverse. La vie consiste à laisser le Seigneur se servir de vous afin d'accomplir ses plans et non à avoir recours à lui pour vos projets personnels. La Bible dit « Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. » J'ai lu de nombreux livres qui nous propose des moyens de découvrir le sens de la vie, mais ce sont en général des livres égocentriques, parce que, voyez-vous, ils traitent le sujet en partant de notre propre personne. Ils recommandent généralement les mêmes étapes, réfléchir à nos rêves, déterminer nos valeurs, fixer nos objectifs, découvrir nos points forts, viser haut, passer à l'action, faire preuve de discipline, croire que nous pouvons atteindre nos objectifs, collaborer avec d'autres et ne jamais baisser les bras. Eh bien, au contraire, essayez d'en faire moins et en vous concentrant surtout sur l'essentiel. Car l'objectif, c'est de vous aider à devenir ce que Dieu désire pour vous. Comment allez-vous, chers amis, découvrir le but pour lequel vous avez été créés? Eh bien, vous n'avez que deux solutions. La première, la spéculation, elle est choisie par la plupart des gens. Ils supposent et ils devinent, ils inventent des tas de théories. Et quand certains déclarent « j'ai toujours pensé que la vie était », et ils sous-entendent par là « c'est la meilleure idée qui me soit venue à l'esprit ». Pendant des milliers d'années, de brillants philosophes ont discuté sur le sens de la vie. La philosophie est un sujet important, et oui, et elle a son utilité. Mais pour déterminer le sens de la vie, même les philosophes les plus clairvoyants ne peuvent que se limiter à des suppositions. Heureusement, il n'y a pas que la voie de la spéculation pour trouver le sens et le but de la vie, et cela nous amène à la deuxième solution, la révélation. Nous pouvons rechercher ce que Dieu nous a révélé sur la vie dans sa parole. La façon la plus simple de découvrir la raison d'être d'une invention, par exemple, consiste à interroger son inventeur. Et pour notre vie, chers amis, c'est pareil. Eh bien oui, interroger tout simplement notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance, je ne pense pas. Il nous révèle clairement les objectifs pour notre vie dans la Bible. C'est notre manuel de l'utilisateur qui nous explique pourquoi nous sommes sur terre, comment fonctionne la vie, quelles sont les erreurs à éviter et ce que nous réserve l'avenir. Il nous dévoile des vérités que les méthodes d'épanouissement personnel ou les traités de philosophie ne peuvent pas nous enseigner. La Bible dit « J'annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes. » Dieu l'avait déjà choisie pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. Dieu n'est pas seulement le point de départ de notre vie, il en est la source. Et pour découvrir le sens de votre vie, eh bien vous devez donc vous tourner vers la parole de Dieu et non vers la sagesse du monde. Oui, basez donc votre vie sur des vérités éternelles et non sur la dernière philosophie ou psychologie à la mode, la motivation pour réussir ou les histoires émouvantes. La Bible nous dit « Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses et selon l'intention qui inspire sa décision. » Ce verset nous donne trois indications. Primo, vous pouvez découvrir votre identité et votre raison d'être en entretenant tout simplement une relation avec Jésus-Christ. Si vous ne vivez pas une telle relation, je vous expliquerai plus tard comment en entamer une. Secondo, Dieu pensait à vous bien avant que vous ne pensiez à lui. Il avait un plan pour votre vie, et ceci avant même votre naissance. Il l'avait conçu avant votre entrée dans ce monde. Vous pouvez choisir votre métier, votre conjoint, vos loisirs et bien d'autres aspects de votre vie, mais pas votre raison d'être. Et tierso, le sens de votre vie s'inscrit dans un plan bien plus large et infini que Dieu a conçu de toute éternité. C'est le sujet de ce CD Et croyez-moi, si vous l'écoutez attentivement, vous allez vraiment réaliser quelque chose. Peut-être le sens de votre vie vous paraissait bien obscur jusqu'à présent, mais j'ai une bonne nouvelle, car vous n'allez pas tarder à recevoir la lumière nécessaire. Et voici une idée à méditer. Si Dieu n'existe pas, et si tout n'était que le résultat du hasard, eh bien votre vie n'aurait aucun sens, car tout commence avec Dieu. Chers amis, vous n'êtes pas là par hasard. Et je répète, vous n'êtes pas là par pur hasard. Votre naissance n'a été ni une erreur, ni le fruit du hasard. Et votre vie n'est pas un accident. Même si vos parents n'avaient pas prévu votre naissance, eh bien Dieu, lui, l'a fait. Il vous a désiré. Si vous êtes en train de respirer en ce moment, ce n'est pas une question de destin, ni de chance, ni de hasard, ni même de coïncidence. Vous êtes vivant parce que le Seigneur l'a voulu. La Bible dit « Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour moi ». Puisque Dieu vous a créé pour une raison précise, il a décidé le moment de votre naissance et la durée de votre vie. Il en a planifié tous les jours à l'avance jusqu'au jour de votre mort. Le psalmiste a écrit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Oui, en effet, Dieu avait un plan en vous créant. Et peu importe que vos parents aient été bons, mauvais ou indifférents, le Seigneur savait que ces deux personnes possédaient exactement les caractéristiques génétiques qui lui permettraient de créer l'individu unique qu'il avait en tête, c'est-à-dire vous. Vos parents avaient l'ADN voulu par Dieu pour vous créer. Alors qu'il a des, il y a des parents illégitimes, ça nous le savons. Il n'y a donc des parents illégitimes, mais attention, il n'y a pas d'enfants illégitimes. Car beaucoup d'enfants ne sont pas désirés par leurs parents, mais Dieu les a voulus. Le plan de Dieu tient compte de l'erreur humaine et même du péché. Ce qui a poussé Dieu à vous créer, c'est son amour. La Bible nous explique « Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants. » Le Seigneur n'est pas un bidouilleur. Il a tout prévu avec une grande précision. Plus les physiciens, les biologistes et les autres scientifiques avancent dans leurs découvertes, plus nous réalisons que l'univers est adapté à tout point à notre existence et que ses caractéristiques ont rendu la vie humaine possible. Pourquoi s'est-il donné la peine de créer tout un univers pour nous? Parce qu'il est un Dieu d'amour. Ce genre d'amour est difficile à imaginer, mais il est digne de notre confiance absolue. Vous avez été créé par amour. Le Seigneur vous a façonné afin de pouvoir vous aimer. Vous pouvez construire votre vie sur cette vérité. La Bible dit que Dieu est amour. Elle ne dit pas que Dieu a de l'amour, car il est vraiment, véritablement, il est amour. C'est son caractère. À l'intérieur de la Trinité règne une communion caractérisée par un amour parfait, si bien que Dieu n'avait pas besoin de nous créer. Il ne se sentait pas seul. S'il a voulu nous créer, c'est pour exprimer son amour. Il a dit, « Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai et les faits, je les fais toujours, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Si Dieu n'existait pas, eh bien nous serions tous des accidents, le résultat d'un hasard de l'univers. Vous pourriez alors cesser d'écouter ce CD, car la vie n'aurait ni but, ni raison d'être, ni signification. Il n'y aurait ni bien ni mal, et aucune espérance par-delà notre courte existence ici-bas. Mais il y a un Dieu qui nous a créés pour une raison précise, et notre vie a un sens profond. Nous découvrons cette signification et cet objectif divin seulement lorsque nous faisons du Seigneur la référence pour notre vie. La version anglaise paraphrase ainsi Romains chapitre 12 verset 3. Le seul moyen de nous comprendre nous-mêmes est de considérer ce que Dieu est et ce qu'il accomplit pour nous. Oui, chers amis, vous n'êtes pas le fruit du hasard. La vie de chacun est conduite par quelque chose. La plupart des dictionnaires définissent le verbe « conduire » comme signifiant « guider, contrôler, diriger ». Que vous conduisez une voiture, un orchestre ou des affaires, cela signifie que vous les guidez, les contrôlez et les dirigez. Chers amis, quelle est la force motrice qui conduit votre vie? En ce moment, vous êtes peut-être obsédé par un problème, une pression ou un délai à respecter. Il peut aussi s'agir d'un souvenir pénible, d'une peur ou d'une superstition. Des centaines de circonstances, de valeurs et d'émotions peuvent conduire et conditionner votre vie. Beaucoup de gens se laissent conduire par la culpabilité. Ils passent toute leur vie à ruminer leurs regrets et à cacher leur honte. Leurs mauvais souvenirs les hantent. Ils laissent leur passé déterminer leur futur. Souvent, ils se punissent eux-mêmes inconsciemment en sabotant leur propre réussite. Quand Caïn a péché, son sentiment de culpabilité l'a coupé de la présence de Dieu. Et l'Éternel lui a dit, « Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Telle est la situation de la majorité des hommes aujourd'hui. Ils errent sans un but dans la vie. Et nous sommes des produits de notre passé, oui, d'accord, mais nous ne sommes pas obligés d'en être prisonniers. Le plan de Dieu n'est pas limité par notre passé. Le Seigneur a transformé Moïse, oui, un meurtrier, en chef d'une grande nation, et Gédéon, un lâche, un courageux héros. Il peut aussi accomplir de grandes choses dans votre vie. Le Seigneur sait mieux que personne. Oui, il sait donner un nouveau départ aux hommes. La Bible nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Beaucoup de gens se laissent conduire par la rancune et la colère. Ils ruminent le mal qu'on leur a fait sans jamais tourner la page. Au lieu d'apaiser leur souffrance en pardonnant, ils y repensent constamment. Certains rancuniers se renferment sur eux-mêmes et gardent leur colère en eux, alors que d'autres explosent et s'en prennent à leur entourage. Les deux réactions sont mauvaises et absolument inutiles. La rancune vous fait toujours plus de mal à vous qu'à votre adversaire. Lui a probablement oublié le mal qu'il vous a fait et a poursuivi sa route, alors que vous continuez à baigner dans votre souffrance et à faire perdurer ce passé. Écoutez-moi bien, chers amis. Ceux qui vous ont blessés dans le passé ne peuvent continuer à le faire que si vous vous accrochez à votre rancune. Ce qui est passé, rien n'y changera. Votre amertume a pour seul résultat de vous détruire pour votre bien. Tirez-en la leçon qui s'impose, puis n'y pensez plus. La Bible dit, car c'est l'emportement, oui, de nous emporter qui tue un insensé. Et c'est la colère qui fait périr le sot. Je répète ce verset, car c'est l'emportement qui tue un insensé, et c'est la colère qui fait périr le sot. Eh bien, beaucoup de gens se laissent conduire par la peur. Leurs peurs peuvent être la conséquence d'une mauvaise expérience, l'attente irréaliste, d'une éducation trop autoritaire, ou même de prédispositions génétiques. Dans tous les cas, ils passent à côté d'occasions rêvées parce qu'ils ont peur de se lancer. Ils jouent la carte de la sécurité en évitant les risques et en essayant de maintenir les choses telles quelles. La peur est une prison que vous construisez vous-même. Elle vous empêchera de devenir tel que Dieu vous veut. Vous devez la combattre avec les armes de la foi et de l'amour. La Bible dit, l'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment. Et ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Beaucoup de gens se laissent conduire par le matérialisme. Leur désir d'acquérir des biens devient l'objectif principal de leur vie. Ils pensent que plus ils ont de biens, plus ils seront heureux, auront de l'importance et se sentiront en sécurité. Mais c'est totalement faux. Les biens ne procurent qu'une joie passagère. Comme les objets ne changent pas, eh bien nous en lassons avec le temps et nous en voulons sans cesse de nouveau, plus cher et encore plus beau. Certains pensent qu'en accumulant les biens, ils gagnent en importance. Or, la valeur personnelle n'a rien à voir avec l'épaisseur du portefeuille. Notre valeur n'est pas définie par nos biens, et Dieu affirme que les plus grands trésors de la vie ne sont pas les trésors matériels. Beaucoup croient que la richesse augmente la sécurité. C'est absolument faux. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent nous faire tout perdre en un seul instant. Nous ne trouverons la vraie sécurité que dans quelque chose que personne ne peut nous enlever, c'est-à-dire notre relation personnelle avec Dieu. Beaucoup de gens se laissent conduire par leur besoin d'être approuvés. Ils laissent les désirs de leurs parents, de leurs conjoints, de leurs enfants, de leurs enseignants et amis contrôler totalement leur vie. Beaucoup d'adultes essayent encore d'obtenir l'approbation de leurs parents impossibles à satisfaire. D'autres se laissent conduire par les attentes de leur entourage et ont tout le temps peur de ce que l'on peut penser d'eux. Hélas, ceux qui suivent la foule, eh bien, finissent par s'y perdre. Je ne connais pas toutes les clés du succès, mais je sais qu'essayer de plaire à tout le monde mène à l'échec. En vous laissant influencer par l'opinion des autres, vous manquerez à coup sûr le plan de Dieu pour votre vie. Jésus-Christ a dit « Nul ne peut servir de maître ». D'autres éléments peuvent diriger votre vie, mais tous mènent à la même impasse, potentiel non exploité, tension inutile et vie peu satisfaisante. Chers amis, savoir quel est votre objectif donne un sens à votre vie. Nous avons été créés pour que votre vie ait un sens. Certains se livrent à des pratiques douteuses comme l'astrologie ou la voyance afin de découvrir. Lorsque la vie a un sens, on arrive à supporter presque n'importe quoi. Dans le cas contraire, rien n'est supportable. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a écrit « Je me sens misérable parce que je me bats pour devenir quelqu'un sans même savoir où cela me mène. Je me contente d'avancer sans but, mais si je découvre un jour ma raison d'être, je pourrai commencer à vivre. » Chers amis, voyez-vous, sans Dieu, la vie n'a aucun sens et nous n'avons aucune raison d'être ni aucun espoir. Nous avons aucune raison d'être et nous avons aucun espoir pour notre avenir, car dans la Bible, de très nombreux hommes ont exprimé leur désespoir. Par exemple, Ésaïe, eh bien, il s'est plaint. Il dit, je me suis fatigué pour rien, c'est inutilement, oui, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et Job, lui, il dit, mes jours tirent à leur fin sans qu'il y ait d'espoir. Et je suis plein de dégoût, je ne durerai pas toujours. Laisse-moi donc tranquille, ma vie est si fragile. Le plus grand drame n'est donc pas de mourir, mais de vivre sans aucun but. L'espoir est aussi essentiel à notre vie que l'air et l'eau. Pour tenir bon, il nous faut avoir une raison d'espérer. Si vous êtes désespéré, reprenez donc courage. Quand vous commencerez à vivre avec un objectif, de merveilleux changements se produiront. Dieu a dit, « Car je connais les projets que j'ai conçu en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Peut-être pensez-vous vous trouver dans une situation impossible, mais la Bible dit que Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. Chers amis, savoir quel est votre objectif vous simplifie la vie. Cela vous permet de définir ce que vous ferez et ne ferez pas. Votre but devient donc le critère dont vous vous servez pour faire la différence entre les activités essentielles et secondaires. Il vous suffit de vous demander cette activité. M'aide-t-elle à atteindre l'un des objectifs de Dieu pour ma vie personnelle? Sans aucun but précis, vous n'avez aucune base sur laquelle prendre des décisions. Organisez, oui, organisez votre temps et employez vos dons. Vous avez tendance à baser vos choix sur les circonstances, les pressions et votre humeur du moment. Mais les personnes qui n'ont pas d'objectif ont tendance à en faire trop, et c'est cela qui produit les tensions, de la fatigue et des conflits. Il est impossible, croyez-moi, de faire tout ce que les autres vous demandent. Vous avez juste assez de temps pour accomplir la volonté de Dieu. Si vous n'arrivez pas à tout faire, cela signifie que vous essayez d'en faire plus que ce que Dieu vous demande, ou alors que vous regardez trop la télévision, lisez trop les journaux. Une vie motivée par l'essentiel vous amènera à un style de vie plus simple et un emploi du temps plus équilibré. La Bible dit « Une vie prétentieuse » est clinquante et vide, une vie simple et droite et bonne. Car ce genre de vie mène à la paix du cœur. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce que il se confie en toi. Savoir quel est votre objectif vous aide donc à faire les bons choix. Vous concentrez ainsi vos efforts et votre bon choix, et vous devenez plus efficace. Par nature, nous avons tendance à nous laisser distraire par des choses sans importance. Nous jouons avec notre vie. Beaucoup de gens vivent dans un désespoir silencieux, mais aujourd'hui, il serait plus juste de dire qu'ils passent leur temps à des distractions inutiles. Beaucoup ressemblent à des bateaux sans gouvernail. Ils tournent en rond à une allure folle, mais sans jamais aller nulle part. Sans objectif précis, vous risquez de changer régulièrement de direction de travail et de relation, en espérant chaque fois mettre fin à votre confusion ou remplir le vide de votre cœur. Vous vous dites, cette fois, ce sera peut-être différent. Mais cela ne résoudra pas votre vrai problème. Le centre et le but de votre vie ne sont pas bien définis. La Bible nous conseille, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le pouvoir de la concentration peut se voir dans la lumière, car la lumière diffuse, elle n'a pas beaucoup de puissance quand elle est diffuse, ni d'impact. Mais vous pouvez concentrer son énergie en l'orientant avec une loupe. Les rayons du soleil peuvent être concentrés de façon à mettre le feu à de l'herbe ou du papier. Concentrez encore davantage un rayon lumineux et vous obtenez un rayon laser capable de couper de l'acier. Et oui, rien n'est aussi puissant qu'une vie bien orientée avec des objectifs. Les hommes et les femmes qui ont le plus marqué l'histoire sont ceux qui étaient les plus déterminés. C'était le secret de l'apôtre Paul et cela lui a permis de répandre le christianisme dans tout l'Empire romain, c'est pas peu dire. Il a expliqué ceci. « Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but. » Essayez donc de renoncer même à de bonnes activités et ne faites que ce qui est le plus important. Ne confondez jamais l'activisme et le rendement. Vous pouvez être très occupé sans but précis, mais à quoi bon? L'apôtre Paul a dit, « Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même préoccupation. » Chers amis, savoir quel est votre objectif vous motive. Les buts que nous fixons, eh bien, nous passionnent. Un défi précis nous remplit d'énergie, tandis que un manque de vision nous démotive complètement. Nous n'avons même plus envie de sortir du lit. Généralement, ce n'est pas la surcharge de travail qui nous épuise, nous affaiblit et nous retire toute joie, mais le caractère inutile d'une tâche. Chers amis, la vraie joie de cette vie, de notre vie, c'est de participer à une mission que vous considérez comme essentielle. Vous devenez alors une force de la nature, au lieu de rester un être égoïste, égocentrique et amené et amer et grognon. Voyez-vous savoir quel est votre objectif vous prépare pour l'éternité? Beaucoup passent leur vie à tenter de laisser une trace durable ici-bas. Ça, c'est donc important, ils pensent. Ils veulent qu'on se souvienne d'eux après leur mort. Et pourtant, ce n'est pas ce que les autres disent de notre vie qui compte le plus, mais c'est la vie de Dieu. Certains n'arrivent pas à comprendre que tout ce qu'ils peuvent accomplir est de grand, fini, malheureusement, par être dépassé. Les records vont être battus, la célébrité disparaît peu à peu, et les hommages s'oublient. Vivre pour laisser une trace ici-bas est un objectif à court terme. Il est beaucoup plus sage de se bâtir un héritage éternel. Vous n'avez pas été placé sur terre pour qu'on se souvienne de vous, mais pour préparer, croyez-moi, votre éternité. Un jour, vous vous trouverez devant Dieu et il fera le bilan de votre vie, un examen final avant que vous n'entriez dans l'éternité. La Bible dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. On ne pourra pas prendre un avocat célèbre avec nous. Comme le Seigneur veut nous voir réussir et examen, oui, il veut nous voir réussir cet examen sur terre, et il nous a donné les questions à l'avance, eh bien nous pouvons conclure de notre lecture de la Bible qu'il y a deux questions importantes que Dieu posera. Primo, qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ? Dieu ne vous demandera pas de quelle église vous venez, ni quelles sont vos convictions religieuses. Tout ce qui comptera à ses yeux sera de savoir si vous avez accepté ce que Jésus-Christ a fait pour vous et si vous avez appris à l'aimer, à lui faire confiance. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Secondo, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'avez-vous fait de votre vie? Qu'avez-vous fait de tous les dons, les talents, les occasions, l'énergie, les relations et les biens que Dieu vous a donnés? Les avez-vous employés pour votre profit personnel ou pour accomplir le plan de Dieu pour vous? Eh bien, chers amis, le but de ce CD est de vous préparer à répondre à ces deux questions. La réponse à la première détermine où vous passerez l'éternité, et la seconde, ce que vous y ferez. À la fin de ce CD, vous serez capable de répondre à ces deux questions. Chers amis, croyez-moi, la vie sur terre n'est pas tout. Ce n'est pas le tout. Loin de là. La vie sur terre, c'est qu'une répétition générale avant la vraie représentation. Je répète, la vie sur cette terre n'est qu'une répétition générale avant la vraie représentation. Vous passerez beaucoup plus de temps après la mort dans l'éternité que sur terre. Et oui, la terre est un stage, une préparation, un entraînement à la vie éternelle. Votre existence terrestre est une petite parenthèse par rapport à l'éternité, car vous avez été créé pour vivre éternellement. La Bible dit, il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Vous avez en vous un instinct qui aspire à l'immortalité, parce que Dieu vous a créé à son image, afin que vous viviez éternellement. Même si nous savons que tout le monde finit par mourir, la mort nous paraît toujours contre nature et injuste. Mais Dieu a mis en nous le désir de vivre pour l'éternité. Un jour, votre cœur cessera de battre. Et oui, c'est comme ça. Cela marquera la fin de votre corps et de votre temps sur la terre. Mais non la fin de votre existence. Voyez-vous la différence? Est-ce que vous comprenez bien? Un jour, nous allons donc cesser de vivre. Cela marquera la fin de notre corps et de notre temps sur la terre. Mais ça ne marquera pas la fin de notre existence. Votre corps terrestre n'est que la résistance, c'est-à-dire la résidence, une résidence provisoire. C'est tout. C'est une résidence provisoire de votre esprit. Et la Bible nomme votre corps une tente. Oui, une tente, une simple tente. Et compare votre corps futur à une maison. Elle affirme, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Si la vie, ici-bas, offre de nombreux choix, l'éternité n'en présente que deux, c'est-à-dire le ciel ou l'enfer. Votre relation avec le Seigneur sur la terre déterminera votre relation avec lui dans l'éternité. Si vous apprenez à croire au Fils de Dieu Jésus-Christ et à l'aimer, vous serez invité à passer le reste de l'éternité en sa compagnie. Mais si vous rejetez son amour, son pardon et son salut, eh bien vous serez pour toujours séparés de lui. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Oui, malheureusement, beaucoup devront passer l'éternité sans Dieu parce qu'ils ont le choix de vivre sans lui. Ils ont pris ce choix eux-mêmes. Ils ont donc tout simplement décidé ainsi. Quand vous comprendrez, chers amis, que la vie ne se limite pas à la terre, mais qu'elle n'est qu'une préparation à l'éternité, vous vous mettrez à vivre différemment, croyez-moi. Vous commencerez à vivre à la lumière de l'éternité, ce qui influencera toutes vos relations, vos tâches et vos situations. Très vite, de nombreuses activités, de multiples objectifs et même des problèmes qui vous paraissaient si importants vous sembleront petits, insignifiants et indignes de votre attention. Plus vous vous rapprocherez de Dieu, moins vous accorderez d'importance aux autres choses très éphémères. Quand vous vivez à la lumière de l'éternité, vos valeurs changent. Vous employez votre temps et votre argent avec beaucoup plus de sagesse. Vous accordez la priorité aux relations et au développement intérieur au lieu de rechercher la célébrité, les richesses, les exploits ou même les distractions. Votre échelle de valeur se modifiera totalement. Les tendances, les modes et les valeurs populaires perdent de leur importance. L'apôtre Paul a écrit: mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Si votre vie se limitait au temps passé sur la terre, je vous conseillerais d'en profiter au maximum. Vous pourriez alors oublier de vous montrer bon et droit et agir sans vous préoccuper des conséquences de vos actes. Comme vos actions à long terme n'aurait aucune suite, eh oui, vous pourriez vous permettre d'être totalement égoïste, pourquoi pas. Mais, et cela fait toute la différence, la mort n'est pas la fin de tout, elle ne met pas un terme à votre existence, elle vous introduit dans l'éternité, c'est cela. Tout ce que vous faites ici-bas a donc des conséquences, hélas, éternelles. Tout acte accompli au cours de votre vie met en mouvement une corde qui vibrera éternellement. L'aspect le plus triste de la vie contemporaine, c'est la réflexion à court terme. Pour retirer le maximum de votre vie, gardez sans cesse à l'esprit la vision de l'éternité et repensez à sa valeur. La vie ne se limite pas à ici et maintenant. Oh non, l'instant présent n'est qu'une toute petite partie visible de l'éternité cachée à vos yeux. La Bible nous dit: ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Oui, Dieu nous a cependant donné un aperçu de ce que serait l'éternité dans sa parole. Nous savons que le Seigneur est en train de nous préparer une demeure éternelle. Dans les cieux, eh bien nous serons réunis à d'autres croyants, libérés de toute douleur et de toute souffrance, récompensés de notre fidélité sur la terre et chargés d'une mission que nous accomplirons avec joie. Nous ne serons pas couchés sur des nuages, avec une auréole sur la tête et une harpe à la main ou une guitare. Nous jouirons d'une communion continuelle avec Dieu et il restera avec nous au siècle des siècles. Un jour, Jésus-Christ nous dira: « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation de ce monde. » N'est-ce pas merveilleux? La plupart des gens ne pensent à l'éternité qu'au moment des enterrements. Eh oui, et ils n'ont alors souvent que des idées confuses et sentimentales basées sur l'ignorance. Vous estimez peut-être qu'il est malsain de penser à la mort. C'est tout le contraire. Il n'est pas bon de vivre en la niant, en refusant de considérer ce qui est inévitable. Seul l'insensé vit sa vie sans se préparer à ce qui arrivera à coup sûr. Tout comme les 9 mois que vous avez passés dans l'utérus de votre mère ont été une préparation à la vie, de même cette vie n'est qu'une préparation à la suivante. Si vous avez une relation avec Dieu en Jésus-Christ, vous n'avez pas à craindre la mort. Elle est la porte qui ouvre sur l'éternité. Votre dernière heure ici-bas n'aura rien d'une fin. Au lieu d'annoncer la conclusion de votre vie, elle marquera au contraire la naissance de votre vie éternelle. La Bible nous dit, ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente, mais c'est la cité à venir que nous recherchons. Par rapport à l'éternité, notre temps passé sur terre a la durée d'un clin d'œil, mais ses conséquences seront éternelles. Nos actes finissent notre destinée future. Et oui, je répète, nos actes vont définir complètement notre destinée future. Nous devrions donc, chers amis, réaliser qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurerons loin du Seigneur. Il y a quelques années, un slogan populaire encourageait les gens à vivre chaque journée comme si c'était le premier jour du reste de leur vie. Au fait, chers amis, il serait beaucoup plus sage de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Eh oui, et ça sera tout autre chose. Chers amis, la plupart d'entre nous savent que la vie est une étape temporaire. La Bible contient de nombreuses images qui nous enseignent le caractère court et temporaire de la vie sur terre. Elle la décrit comme une buée, une course rapide, un souffle et une nuée. Elle dit, car nous sommes d'hier, nos jours sont comme une ombre sur la terre. Pour utiliser votre vie le mieux possible, eh bien, vous ne devez jamais oublier 2 vérités. Primo, par rapport à l'éternité, la vie est extrêmement courte, croyez-moi. Secondo, la terre n'est qu'une résidence temporaire. Comme vous ne serez pas longtemps sur la terre, croyez-moi, ne vous y attachez pas trop. Demandez à Dieu de vous aider à voir la vie sur la terre avec son regard. David a prié, « Seigneur, fais-moi savoir quand finira ma vie. Oui, combien de temps j'ai à vivre, que je connaisse la durée de mon sursis. » C'est notre sursis ici-bas que nous vivons, et pas autre chose. La Bible compare souvent la vie sur la terre à un séjour temporaire dans un pays étranger. Ce n'est ni votre demeure permanente, ni votre destination finale. Vous ne faites que passer. Vous êtes, en quelque sorte, en visite. La Bible dit, nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont trahi leur roi et son royaume. Ils ont pensé que la terre était leur patrie, puisqu'ils y habitent. Ce n'est pas le cas, pas du tout. La Bible se montre très claire sur ce point. Oui, mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage, et c'est pourquoi je vous le demande. Ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même, car ils font la guerre à l'âme. Dieu nous ordonne de ne pas trop nous attacher à ce qui nous entoure, parce que c'est tout simplement temporaire. Il est écrit que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va, hélas, qu'ils le veuillent ou pas, vers la fin. Chers amis, nous traversons des difficultés, des chagrins et du rejet dans ce monde, parce que la terre n'est pas notre destination finale. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous comprenons mieux pourquoi certaines promesses de Dieu semblent ne pas se réaliser, pourquoi certaines prières restent sans réponse et pourquoi certaines circonstances nous paraissent injustes. Mais ce n'est pas du tout la fin de l'histoire. Pour nous empêcher de trop nous attacher à la terre, Dieu nous permet de vivre des mécontentements et des insatisfactions. Ainsi, certains de nos désirs ne seront jamais satisfaits ici-bas. Et surtout, je pense aux miennes, ça me fait rire, nous ne sommes pas totalement heureux parce que nous ne sommes pas censés de l'être. Et oui, car la terre n'est pas notre vraie demeure. Nous avons été créés pour quelque chose d'infiniment meilleur, car c'est pas tout drôle ici-bas. Un poisson ne sera jamais heureux hors de l'eau. Un aigle ne sera jamais satisfait s'il n'a pas le droit de voler. Vous ne vous sentirez jamais totalement satisfait sur la terre parce que vous avez été créé pour beaucoup plus que cela. Et oui, mes chers amis, vous aurez de bons moments, mais rien de comparable à ce que Dieu a prévu pour vous dans l'au-delà. Croyez-moi, comprendre que la vie sur la terre n'est qu'une étape temporaire devrait changer totalement nos valeurs. Vous devez prendre vos décisions en fonction des valeurs éternelles et non en fonction de valeurs temporelles. Voyez-vous, chers amis, tout ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. Je répète, tout ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. La Bible nous dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Si vous pensez que le plan de Dieu pour votre vie consiste à vous voir connaître la prospérité matérielle ou le succès populaire, vous commettez une grave erreur. La vie abondante n'a rien à voir avec l'abondance matérielle et la fidélité à Dieu ne garantit pas le succès dans le travail ni même dans le ministère. Ne vous concentrez donc jamais sur les couronnes temporaires, les diplômes, les félicitations. L'apôtre Paul était fidèle. Mais savez-vous qu'il a fini ses jours en prison? Jean-Baptiste était fidèle. Mais il a été décapité. Des millions d'hommes et de femmes fidèles ont subi le martyre, ont tout perdu ou sont arrivés à la fin de leur vie sans avoir rien accompli de très remarquable. Mais la fin de la vie n'est pas la fin de toute chose. Aux yeux de Dieu, les plus grands héros de la foi ne sont pas ceux qui parviennent à la prospérité, au succès, et au pouvoir dans cette vie, mais ceux qui la considèrent comme une étape temporaire et qui servent fidèlement le Seigneur en attendant la récompense éternelle qui leur est promise. Chers amis, oui, adorer le Seigneur, c'est bien plus qu'aller pour un service à l'Église. C'est un mode de vie. Nous aimons Dieu, nous nous réjouissons en Lui, et nous nous donnons à lui pour accomplir ses buts. Nous l'adorons en nous réjouissant en lui. En nous ordonnant de le glorifier, Dieu nous invite à nous réjouir en lui. Il veut que notre adoration soit motivée par amour. Oui, par l'amour, la reconnaissance et le plaisir, et non seulement par le devoir. Si nous passons notre vie à rendre gloire au Seigneur, tout devient donc un acte d'adoration. La Bible nous dit, mettez-vous au service de Dieu, servez-vous de votre corps comme d'un moyen pour faire ce qui est juste. Chers amis, sachez que vous rendez gloire à Dieu en parlant de lui aux autres. Et oui, le Seigneur ne veut pas que son amour et ses plans soient gardés secrets uniquement pour vous. Une fois que nous connaissons la vérité Il veut que nous la partagions avec d'autres. C'est un grand privilège de parler de Jésus-Christ aux autres, de les aider à découvrir le plan de Dieu pour eux et de les préparer pour la vie éternelle. La Bible déclare « La grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes en augmentant ainsi le nombre de prières de reconnaissance exprimées à la gloire de notre Dieu. » Chers amis, il est temps de régler ce problème. Eh oui, pour qui allez-vous vivre? Pour vous-même ou pour Dieu? Peut-être hésitez-vous. Aurais-je la force, oui, pourquoi pas, de vivre pour le Seigneur? Mais ne vous inquiétez pas. Si vous choisissez de vivre pour lui, eh bien Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. La Bible dit, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Ne pensez pas que vous devez avoir une réponse à toutes vos questions avant de vous engager. Vous allez toujours avoir des questions, et durant le reste de votre vie, croyez-moi, je suis un disciple de Christ depuis plus de 50 ans, et j'ai encore des questions et des doutes sur ce que je lis dans la Bible. Mais ces questions ne m'ont pas du tout empêché de jouir d'une relation personnelle avec notre Seigneur, avec mon bien-aimé Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de comprendre comment la combustion fonctionne afin de pouvoir profiter d'une voiture. Je n'ai pas besoin de comprendre la chimie de la digestion afin de jouir d'un morceau de viande. De même, j'aurais souhaité que quelqu'un me dise que je peux accepter Christ dans ma vie avec tous mes doutes et toutes mes questions. Vous pouvez vous aussi l'accepter. Oui, dès à présent, Dieu vous invite à vivre pour sa gloire en accomplissant les buts qu'il vous a fixés. C'est la seule vie digne de ce nom. Sinon, vous ne ferez qu'exister. La vraie vie commence par un engagement total envers Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas certain de l'avoir fait, eh bien, il vous suffit de le recevoir et de croire en lui. La Bible promet à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Chers amis, voulez-vous accepter l'offre de Dieu? Tout d'abord, croyez que le Seigneur vous aime et qu'il vous a créé pour accomplir ses buts. Vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes destiné à vivre éternellement. Donc, Dieu vous a choisi pour que vous ayez une relation avec Christ qui est mort sur la croix pour vous. Il veut vous pardonner tout le mal que vous avez commis. Demandez-lui de le faire et de vous aider à changer, et il le fera. Ensuite, recevez Jésus-Christ dans votre vie et laissez-le devenir votre Seigneur, votre directeur, votre chef, celui qui contrôle la situation, et votre Sauveur, mort pour régler la dette de tous vos pas, de tous vos faux pas. Eh bien, il le fera, car acceptez donc son pardon pour vos péchés. Faites-le, recevez de lui l'essentiel pour votre vie et la paix. Recevez sa puissance qui vous aidera à atteindre l'objectif de votre vie. La Bible garantit ceci: celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Eh bien maintenant, où que vous soyez, chers amis, je vous invite à prier après moi la prière que je vais prier avec vous, la prière qui changera votre éternité. Ce message n'est rien d'autre que de nous faire comprendre l'importance que représente notre salut en Jésus-Christ. Prions. Merci Seigneur et loué sois-tu, car nous avons la certitude que tu as payé le prix entier et suprême pour les péchés commis par nous. Merci de ce que nous pouvons croire, que ton sang précieux suffit à laver tous nos péchés. Merci que nous n'avons nul prix à payer, nul châtiment à subir, aucune bonne œuvre, offrande, mérite, sacrifice ou pénitence qui doivent venir s'ajouter à l'œuvre accomplie par toi pour nous racheter. Oui, en toi, en ton sacrifice, nous plaçons toute notre confiance, car le nôtre ne servirait à rien. Amen. Amen.